Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il a plus d'une cinquantaine de films à son actif. On retient bien sûr J.A. Martin, photographe, qu'il a co-scénarisé avec Jean Baudin en 1976, mais on pourrait aussi mentionner sa contribution comme scénariste des films Cordélia en 80 ou D'aujourd'hui ou jamais en 1998. Et peut-être vous souvenez-vous du professeur Mandibule de cette série culte de la télévision d'État. Histoire de se faire plaisir, voici un extrait du thème de l'émission.
Mandibule, bedon d'aile, paillasson, fripono et dame, plume giroflée, et brûlelle, toute la ribambelle de fou, c'est nous la ripoule dingue, oui c'est nous, c'est nous. Mandibule, bedon d'aile, paillasson, fripono et dame, plume giroflée, et brûlelle, toute la ribambelle de fou, c'est nous la ripoule dingue, oui c'est nous, nous.
Ça, ça vous rappelle de beaux souvenirs, Marcel Sabourin. D'abord, bonjour.
Bonjour, bonjour.
La ribouldingue.
Ouais, une belle gang de fous.
Une belle gang de fous. Ben, vous savez, j'ai sorti quelques notes intéressantes sur la ribouldingue. Il y a eu 89 épisodes.
Autant que ça.
Oui, diffusés entre le 17 octobre 67 et le 29 janvier 71. Ouais. Évidemment, c'était inspiré du théâtre de la Commedia dell'arte. Paillasson, M. Bedondaine, le professeur Mandibule, vous pouvez m'en nommer d'autres?
Oui, ben, il y avait Fripono. Oui. Et vous savez que Paillasson et Mandibule sont nés d'une émission qui a précédé celle-ci.
Les Croquignoles.
Les Croquignoles pendant 3 ans, mais qui a été faite, qui était avec Marc Favreau, Luc Durand et Suzanne Lévesque.
Et qui était issue elle-même de la boîte à surprise.
Non. C'est ça, non. Qui était en dehors de la boîte à surprise complètement.
D'accord.
Mais Marc Favreau ne jouait pas le rôle de Sol, il jouait le rôle de Berlingot, qu'il n'a jamais repris par la suite. Et puis, mais Paillasson s'est créé là. Le rôle de Suzanne Lévesque aussi s'est créé là, et le rôle de Goblet s'est créé cette émission des Croquignoles. Et ensuite, les Croquignoles se sont défaits. Et puis, là, Marc et Luc et Suzanne ont fait pour la boîte à surprise Sol et Goblet, avec des émissions génial.
Tout à fait.
Certaines émissions de Sol et Goblet et de Fanfreluche devraient être gravées dans le bronze, dans l'or. Et Jean-Louis et moi-même, nous sommes allés à la ribouldingue qui s'est construite un peu autour de Jean-Louis, je crois, parce que si vous enlevez Paillasson, si vous enlevez Mandibule, il n'y a pas grand-chose qui manque. Si vous enlevez Paillasson de la ribouldingue, il n'y a plus rien.
C'est lui qui cherchait
tout s'écroule.
Oui, les bonbons à patates.
Les patates en chocolat.
Voyons, on s'en souvient encore.
Ouais, c'est que Jean-Louis Miette est un des grands. On appelle ça, dans le cirque, il y a le clown blanc et le clown rouge. Le clown blanc, c'est un peu comme une espèce de gobelet magnifié. C'est pas tout à fait gobelet, mais c'est gobelet encore plus blanc, plus impeccable, plus voulant plaire aux femmes, chantant, jouant de la mandoline. Dans le cirque ancien, c'était ça. Et le clown rouge, lui, c'est celui qui mange des coups de pied au cul. C'est celui qui est un... Sol est un clown rouge, parfait. Il vit dans un corps à vidange.
Ouais.
Hein? Et Jean-Louis était un clown rouge, celui qui reçoit les coups de pied au cul. Absolument génial. Et j'en ai vu beaucoup de clowns rouges. Et à part Sol, là, qui faisait, lui, des monologues, c'était autre chose. Mais absolument extraordinaire.
Et Jean-Louis qui a pu jouer en carrière des rôles drôles et à la fois des rôles dramatiques.
Oui.
Un peu comme Edgar Fruitier qui a toujours joué des rôles très drôles.
Oui.
On se souvient de ce monsieur qu'il jouait dans la boîte à surprise avec Madame Becksec.
Oui, oui.
Et qui, ensuite, d'autre part, des rôles dramatiques et qui est un érudit de musique classique.
Vous définissiez
vous-même comme un clown et pourtant vous avez joué aussi des rôles dramatiques.
Oui, j'ai commencé comme un clown, c'est ça. Mais oui, Jean-Louis, c'est une des choses qui m'attriste le plus au monde quand je regarde la mort de la façon dont elle frappe, c'est que Jean-Louis, au moment même où il commençait, depuis 3 ou 4 ans, à jouer pour Robert Lepage, à jouer des grands, des rôles, des fois où il ne parlait pas beaucoup, mm-hmm. mais où il avait une tête et une intensité extraordinaire au cinéma. Il y avait, je veux dire, j'aime pas le mot carrière, hein, mais il y avait une carrière au cinéma devant lui. Puis tout à coup, il claque, boum, il disparaît. Et tabarnouche que c'est injuste. J'ai assez sacré. Ah, ben, c'est la vie.
Parlant cinéma, écoutons le prochain extrait.
Il y a quelque chose qui te chicote depuis quelques jours. Hein? Qu'est-ce que c'est tes enfants?
Je t'en ai de rester toute seule!
T'es pas toute seule, on est ensemble.
Pas pour l'imbécile Joseph Albert Martin.
Ouais.
Pis approche-moi pas! Pis sauve-toi pas!
Je me sauve pas, j'ai rien à cacher.
T'as rien à cacher, t'as rien à dire, y'a rien que ta maudite photo! Y'a rien que ça qu'on entend parler depuis 15 ans!
Pis toi, y'a rien que des enfants qu'on entend parler depuis 15 ans!
Ouais, mais les enfants, j'étais pas toute seule quand je les ai faites. C'est à toi aussi. Si t'en occupais un peu plus, peut-être que j'en parlerais moins.
Je m'en occupe, à ma manière.
T'en occupes, t'es jamais là.
Je suis jamais là! Je suis toujours là! Y'a personne dans le canton qui est plus souvent à la maison que moi!
Ben justement! J'aimerais bien ça, des fois, que tu partes travailler au champ comme tout le monde. Quand tu reviendras à la maison, peut-être que tu serais un petit peu plus là. Au lieu de te fourrer la tête toute la journée en dessous de ton maudit voile noir, à rien entendre, à rien voir!
Vous avez sans doute reconnu votre interprétation dans J.A. Martin Photographe. Quel grand film! Peu bavard, mais pourtant cet extrait qu'on vient d'entendre, ce discours, ce dialogue avec Monique Mercure... Formidable. Oui, très intense.
Oui, c'est quelques mots que je disais dans tout le film. C'est Monique qui... c'est elle, le personnage principal du film. C'est, en fait, c'est ça. C'est Rose-Aimée Martin, la femme du photographe. En fait, ça devrait être ça, le titre.
En fait, c'est l'histoire d'un photographe qui part seul chaque été sillonner le Québec du début du 20e siècle. L'image et les images
1880,
sont...
plutôt de la fin du 19e.
Fin du 19e. Ouais, ouais. 15 ans de mariage. Ouais. Il amène sa femme en excursion, ouais. Peut-on dire?
Et vous savez, l'affaire, c'est que c'était entrevu comme un film sur la photographie. Hey, on s'était dit, un photographe ambulant, comme Notman ou tout ça, et qui part avec tout son appareil assez lourd, assez complexe, et qui s'en va sur les montagnes pour prendre des paysages fantastiques avec des photos, une espèce de technique panoramique de prendre des photos. Ah, c'est-tu extraordinaire? Oui, 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 oui. Puis ça faisait avec tous les chums qu'on avait à l'ONF, Michel Brault le premier, disait hey, « vous avez fait un film sur un photographe, c'est extraordinaire, waouh, 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 waouh. » Et puis, tout à coup, on était je ne sais pas trop où. C'était pas trop loin, après le début d'avoir parlé de cette idée de scénario-là. Et Jean et moi, on était là, je pense qu'on était à Saint-Benoît-du-Lac, parce qu'on a écrit beaucoup, J.A. Martin, photographe,
à Saint-Benoît.
Plusieurs fois, ah, oui. On allait, les moines étaient bien, bien gentils. On était dans la cave, on sacrait comme des chartiers, mais il n'y avait personne qui nous entendait, sauf celui qui passait, qui était Don Léal, qui passait, lui, le soir, il était concierge. Alors, il passait dans la nuit. Pour voir si les fournaises marchaient bien, mais ils devaient nous entendre sacrer, en tout cas. Mais alors, on s'est dit, mais pendant qu'on est ici, là, qui c'est qui torche les petits à la maison? C'est nos femmes. Et comme ça pour tous les acteurs, comme ça pour tous les cinéastes, comme ça pour bien, bien du monde qui ont à s'éloigner pendant un mois et demi, parce que c'est ça que faisait le photographe ambulant.
Tout à fait.
Il s'en allait. J'ai dit, c'est comme un cinéaste, c'est comme un acteur, c'est comme toi puis moi. C'est comme nos femmes. Et là, l'idée de Rose-Aimée Martin nous est venue. Si elle disait « Hey, J.A., cette année, je te suis. Je pars avec toi. »
Parce que dans le dialogue qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'elle vous reproche. Elle reproche à J.A. Martin de toujours être absent.
En dessous de son voile, absent. Même quand il est à la maison, il est absent.
Oui. Et Monique Mercure, dans ce film-là, a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Ouais. Un film qui a remporté aussi 7 prix Génie.
Ouais. Elle l'a enlevé à Sophia Loren, qui jouait une journée particulière où Sophia Loren était extraordinaire.
C'est à revoir. Ouais. Moi, j'ai revu ce film avant de faire cette émission et je peux dire très sincèrement que c'est un film qui vieillit très bien. En fait, il ne vieillit pas.
Merci pour Jean Beaudin et merci pour Monique.
Les images sont formidables.
Et ça, c'était les images de Mignot. Et Mignot, c'est pas pour rien que Robert Altman, le grand cinéaste américain, quand il est venu, quand il a vu ça à Cannes, il a dit, pour faire mon prochain film, c'est lui que je veux. C'est celui qui a fait la caméra pour Gilles Martin photographe. Et Mignot a fait, je pense, 12 films avec Altman.
Ah oui.
Oui. Pour ensuite se retirer disant, non, là, j'en ai assez.
Mais il a laissé à tout le moins des
Et même qu'il y a une histoire extraordinaire où Mignot a dit, non, je ne peux pas faire votre prochain film. Et Altman a commencé son prochain film, son 15e ou son 20e film avec un autre DOP et puis un directeur photo. Et puis... il l'a lâché au bout d'une semaine. Il a appelé Pierre Mignot. Mignot était couché, il avait mal au dos, etc. Puis il était presque malade, pas mourant, mais il n'est pas encore mort d'ailleurs, loin de là. Eh bien, il l'a appelé chez lui en pleine nuit, dire, écoute, Pierre, il faut absolument... Peter, hey, come on, you have to come back instead of, I don't know, $3,000, I'll pay you $6,000 a day, you know, but come back, please, help me! Et Pierre est allé faire encore un film. Ben oui. Et c'est Lépine, qui était l'assistant de Pierre Mignot, qui a fait tous les films suivants de Altman.
Ben, c'est incroyable que
tout à coup, il y a eu une illumination. Altman, il s'est dit, c'est lui que je veux, puis son assistant, pour faire mes prochains films.
Mais quand on regarde la filmographie, les films dans lesquels vous avez joué, sont tous des films qui évoquent vraiment des pages importantes du cinéma québécois. Bingo, La mort d'un bûcheron, Cordélia, Les dernières fiançailles de Lefebvre.
Dans Les dernières fiançailles, je joue juste un tout petit rôle, rôle du médecin.
C'est ça, le docteur.
Qui vient là, je dis, je pense, deux phrases, et je suis très mauvais.
Mais vous y êtes
Et je suis très mauvais. Jean-Pierre dit, non, Marcel, bah, voyons donc. J'étais pas là, pantoute. C'est parce que, alors ça, c'est merveilleux. Parce que vous arrivez sur un plateau de film, et puis de cinéma, et puis les deux acteurs, sont dans une espèce de communion intense, extraordinaire. Ils m'aimaient bien, je les aimais bien. Je pense d'ailleurs, Julien Augagnon, je me demande si c'est pas moi qui l'ai présenté à Jean-Pierre Lefebvre. Mais alors, et vous arrivez là, de la ville, vous êtes en train de faire, vous faisiez autre chose avant-hier, autre chose hier, demain, vous allez faire autre chose. Là, vous venez faire une petite journée de tournage, un après-midi de tournage pour votre chum Jean-Pierre Lefebvre, puis etc. Bonjour. Oui, c'est ça que t'as à dire, j'ai deux phrases à dire. Vous dites les deux phrases, vous repartez. Puis dans l'auto, vous dites, mais il y avait une atmosphère sur ce plateau-là. Moi, j'étais un élément dérangeant. J'ai pas rien dérangé, évidemment, je suis un bon soldat. Puis tout ça, ça a pas paru. Mais j'étais pas dans leur rythme à eux. Et quand j'ai vu le film, j'avais deux phrases à dire, mais j'aurais pu les dire mieux que ça.
Mais vous avez été aussi un bon auteur. On va pouvoir le découvrir. Egg Generation. Robert Charlebois. Les paroles sont de Marcel Sabourin.
Oh, ça, il faisait juste penser. N'empêche qu'il nous a laissé un œuf. Un bel œuf au miroir. Sein de nos mamans, un œuf en forme de poire qui t'y tape en arrivant. Un œuf bleu, un œuf or, on sort le numéro chanceux. Bingo, bingo, bango. Il faisait juste penser, n'empêche qu'il nous a laissé un œuf. Un gros œuf dépotoir, des désirs de nos mamans. Un œuf en forme de poire qui roula dans la slot tombant. Un œuf bleu, un œuf rond, sort le numéro chanceux. Bingo, bingo, bango. Il pense, il faisait juste penser. N'empêche qu'il nous a laissé un œuf. Un gros œuf, un œuf. Et Kawer en voyait bien vraiment ce que Trenet avait l'espoir de trouver dans sa noix. Un bleu, un fort, on sort le numéro, chante bingo, bingo, bingo. Il bosse, il fait de jeu de ce boxe, il pêche, il nous a laissé un an. Aïe aïe, soudain la poire, ou plutôt le feu de la mort, craque et tourne l'espoir qui va sortir d'en dedans. Un bleu, un or, on sort le numéro, chante bingo. Il fait je suppose, et n'empêche qu'il nous a laissé un nain. Attention, c'était quoi, c'était quoi? C'était quoi, très bon baignade, c'est drôle. Ou bien la Californie, qui saute comme une rose. Pour y commencer sa vie, et pour aussi aller, aller, bien on voulait. Et en passant, en faisant, je suppose, et laisse tomber. Et en passant, en faisant, je suppose, et laisse tomber. Waouh!
De B29.
Ça, c'est vraiment une chanson qui rappelle une autre époque. Mais vous en êtes l'auteur, Marcel Sabourin.
Ouais.
Robert Charlebois, parce qu'on peut faire des liens, on va essayer de faire des liens. Là, on fait le lien de Marcel Sabourin avec la chanson, mais vous êtes surtout connu comme un acteur. Il y a Robert Charlebois qui est connu pour la chanson, mais qui a aussi touché au cinéma. Avec Sergio Leone, le grand Sergio Leone, mais un film qu'on pourrait peut-être considérer, peut-être avons-nous le droit de dire, presque un navet.
Ben, je ne sais pas, mais c'était pas un... C'est-à-dire qu'un navet de Sergio Leone, moi, je prendrais ça n'importe quand, vous comprenez?
Absolument.
C'est-à-dire, c'était pas un des grands films de Sergio Leone. D'ailleurs, Robert, qui est tellement intelligent, malgré, vous savez, on pense... oui, il y a eu des périodes un peu folles, puis tout ça, mais c'est pas un nounou, hein? Il est très, très brillant. Eh bien, il aurait pu faire un avocat, il aurait pu faire bien d'autres affaires. Il s'est dit, oups, disons qu'il n'en parle pas souvent parce qu'il sait très bien qu'il n'était pas à la hauteur de ce talent qu'il a et qui est immense.
Mais la musique, comme beaucoup de films de Leone, est associée au nom d'Ennio Morricone.
Oui.
Et cette musique, elle est charmante, elle est drôle presque. Ouais. Elle nous fait sourire, elle transpire la joie de vivre. Alors voici le thème du film dans lequel se retrouvait Robert Charlebois. Un génie, deux associés, une cloche, musique d'Ennio
Robert
Morricone.
Faisait la cloche!
Thank you.
C'est vrai que c'est amusant, cette musique. Ça s'écoute bien, à tout le moins. Marcel Sabourin, qui est avec nous. On parlait de Sergio Leone. Vous m'avez dit tantôt que, hors des ondes, que le film « Il était une fois dans l'Ouest » est un grand film et qu'on ne le reconnaît pas suffisamment comme étant un grand film. Oui. Pourquoi donc?
Mais là, Vital, qui est notre technicien, nous a dit qu'il était au palmarès,
au
Panthéon du cinéma.
Mais c'est récent.
Oui, moi, je ne lis pas ces choses-là, alors je ne savais pas. Mais je sais que pendant une bonne vingtaine d'années, dans les cinéastes très sérieux, on parlait peu. Il était une fois dans l'Ouest. On en parlait, bien sûr. On ne peut pas revoir ce film-là sans voir qu'il y a quelque chose là. Mais disons que ce n'était pas à la hauteur où il devrait être, selon moi, en tout cas. Et je l'ai revu 3 ou 4 fois de 20 ans en 20 ans ou de 10 ans en 10 ans.
Et qu'est-ce qui vous fascine?
C'est cette espèce de côté tout à fait légendaire qu'il a de traiter l'Ouest, qui n'était pas l'Ouest, en fait, qui était tourné tout ailleurs, et de reprendre avec un grand amour tous les clichés du Western, tous les clichés du grand, l'immense rêve américain. Dans tout ce que ça... Il y a ça chez Jacques Molloy de Vigneault.
Ouais.
Il y a dans certaines chansons de Vigneault, il y a cette espèce de... Vous savez, juste dans ses gestes, ouais. la fameuse pose qu'il a, là, il y a ça, cette espèce de grandeur, de colosse légendaire. Eh bien, chez Sergio Leone au cinéma. Et j'aime ça. J'ai quelque chose... J'aime ça, les grandes...
Alors, c'est un peu péjoratif quand on qualifiait Leone ou les films de Leone de Western spaghetti.
Ils l'ont qualifié comme ça au début.
Parce qu'il était italien.
Oui, puis parce qu'il y avait une nouvelle façon d'habiller le monde, une nouvelle façon de faire des maisons, etc. Puis on disait, c'est pas vraiment comme nous autres, etc. Puis bon... Mais tout à coup, on s'est aperçu avec Clint Eastwood un instant.
Le bon, la brute et le truand,
oui,
c'est un grand film.
Un instant,
aussi.
C'est ça. Avant, les autres, c'est comme si. Ce qu'il y a de magistral dans l'histoire de Leone, c'est que ça a fait. Puis je le connais peu, en fait. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je connais rien au cinéma, comme à la musique.
À peine.
Non, c'est vrai, je connais presque rien. Mais on dirait qu'il a gravi des marches d'une façon plus évidente. Que beaucoup, beaucoup d'autres cinéastes. Il a gravi des marches, une, puis ensuite deux, puis ensuite trois, puis ensuite quatre, puis ensuite cinq, puis ça a fait une espèce de bouleversement du monde cinématographique et de la business cinématographique aussi. C'est ça qu'il y a d'intéressant, les deux en même temps. Et puis tout à coup, ça a fait un peu moins. Puis c'est comme s'il redescendait.
L'escalier qu'il avait monté.
Bizarre.
Descendons l'escalier, bousculons un peu notre temps, allons vers un autre univers. Présentez-nous la dernière pièce de ce premier bloc. Elle est de Maurice Ravel.
On va l'entendre, puis on en parlera après, parce que c'est bien beau. Mais vous savez, moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'instantanément, vous êtes en train... de me prendre pour le grand Edgar. Mais je n'y connais rien du tout en musique. Edgar est mon maître absolu.